Bonjour, notre invitée est Marie-Christine Vergiat, députée européenne, membre du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. Marie-Christine Vergiat est intervenue en 2017 dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « Réinventer l'Europe, une autre Europe est-elle possible ?»
Je suis députée européenne depuis 2009 et je trouve que, tout particulièrement en France, on parle très très mal des questions européennes. L'Europe, plus exactement l'Union européenne, parce que les 28 États de l'Union européenne ne sont pas l'Europe à eux seuls. Donc l'Union européenne est soit la panacée, soit au contraire le diable. Je pense qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça et que ça mérite d'y travailler un peu sérieusement avant de la charger de tous les maux ou au contraire de considérer que la seule solution, c'est l'Europe. On a de plus en plus une cassure, je dirais, entre ce que j'appelle des européistes béats, dès lors qu'il y a plus d'Europe, plus de compétences à l'Union européenne, c'est bien, et puis de l'autre, des gens qui disent effectivement, faut sortir de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut plutôt sérieusement analyser ce qu'il en est, voir en quoi ça peut être utile qu'il y ait des compétences européennes, qu'il y ait de la solidarité européenne, parce que pour moi, ça devrait d'abord et avant tout servir à mettre en commun des moyens pour résoudre un certain nombre de sujets, de questions pour lesquelles seul c'est difficile de le faire. Je pense notamment à la question migratoire sur laquelle je suis très impliquée et on illustre au quotidien d'une certaine façon le fait qu'un seul État ne peut pas répondre à la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ou est-ce qu'on se replie sur soi-même et est-ce que la solution, c'est le repli sur soi-même? Et moi, je dis toujours en la matière, il faut regarder quelles sont les compétences qui sont actuellement à l'Union européenne, quelles sont celles qu'on voudrait enlever à l'Union européenne et quelles sont celles qu'il faudrait au contraire donner à l'Union européenne de façon peut-être plus constructive, plus démocratique et sortir des impasses actuelles. Parce qu'on a l'impression que l'Union européenne, c'est un espèce de bidule qui se construit en dehors des États membres de l'Union européenne. Or, ce n'est pas vrai. Et ce que l'on constate aujourd'hui quand on regarde la réalité du fonctionnement des institutions européennes, c'est qu'on est de plus en plus dans ce qu'on appelle un fonctionnement intergouvernemental, c'est-à-dire où ce sont les États membres qui décident des politiques européennes et qui, après, disent « c'est la faute à l'Union européenne ». Je trouve que c'est un peu facile quand même et que ça mérite un tout petit peu plus d'analyse. Comme quand on dit l'Europe allemande, là aussi je trouve que c'est un petit peu facile parce que l'Allemagne toute seule ne décide de rien. Elle peut donner sa position, elle a une position forte parce que c'est le premier pays de l'Union européenne, tant en termes démographiques qu'en termes de poids économique, mais elle ne décide de rien toute seule. Si la position allemande devient la position majoritaire, voire la position de l'Union européenne, c'est que les autres États membres, les autres chefs d'État et de gouvernement ont accepté la position allemande. Donc ça veut dire que les autres se sont tus. Donc ils ont une responsabilité, ne serait-ce que par leur silence. Et quand c'est le gouvernement français, c'est tout particulièrement inquiétant, on peut dire, parce que la France est le deuxième pays de l'Union européenne et toute la construction européenne se fait quand même sur le binôme franco-allemand. On le voit régulièrement quand on voit les sommets franco-allemands qui précèdent les sommets européens.
Sur cette balance, qu'est-ce que vous mettez du côté positif? Qu'est-ce que vous mettez du côté négatif pour qu'on cible les points qui vont bien et les points qui vont mal?
Dans ce qui va mal, et on le voit notamment depuis ce qu'on appelle la crise de 2008 et la façon dont l'Union européenne, les institutions européennes ont été incapables de répondre à la crise financière. Ils n'ont fait que déplacer le problème de la dette privée vers la dette publique en mettant en place des politiques austéritaires qui pèsent sur les populations avec une obsession de réformes dites structurelles qui vont toujours dans le même sens, qui sont des réformes ultralibérales qui visent à casser les services publics, qui visent à remettre en cause la protection sociale, qui visent à casser le droit du travail. Et quand on regarde les résultats, c'est une accentuation des écarts de richesse à l'intérieur de l'Union européenne entre États membres. Et aussi à l'intérieur de chaque État membre, entre les plus riches et les plus pauvres. les riches sont de plus en plus riches, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même une réalité, et les pauvres sont sinon de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux. Il y a actuellement un quart de la population européenne qui est menacée de pauvreté, c'est-à-dire au seuil de pauvreté à 60% du revenu médian. Et ce nombre ne fait qu'augmenter. Donc ça veut dire que les politiques européennes ne sont pas adaptées à la situation de l'espace économique européen, cet espace économique européen restant l'espace économique le plus riche du monde. Et dans les choses, pour mettre la balance inverse, dans les choses qui vont si nous bien, mais qui sont dans lesquelles l'Union européenne a amené des plus, on le voit dans le cadre des batailles que l'on mène par rapport au TAFTA ou par rapport au CETA. Le TAFTA, c'est l'accord avec les États-Unis, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Qu'est-ce que demandent ceux qui sont opposés au TAFTA et au CETA, dont je fais partie? C'est de protéger les normes sociales et environnementales européennes. Donc ça veut dire que ces normes sociales et environnementales, elles existent par rapport au reste du monde. Donc c'est un plus, c'est un acquis qui est en train d'être remis en cause et qu'on essaye de remettre en cause. Et au-delà de ça, je suis souvent très frappée, moi, de voir que les mêmes qui critiquent à juste titre souvent les politiques européennes et notamment les politiques économiques européennes, notamment la question du dumping social à l'intérieur de l'Union européenne, l'absence d'Europe sociale, d'une réelle Europe sociale, sont aussi les premiers à dire « mais que fait l'Union européenne sur tel ou tel sujet ? Pourquoi l'Union européenne ne défend pas les droits des femmes, par exemple ?» Ben, l'Union européenne ne défend pas les droits des femmes parce qu'elle n'a pas de compétences en la matière. Donc la question, c'est de poser qu'est-ce qu'on veut donner comme compétence à l'Union européenne et qu'est-ce qu'on veut lui enlever comme compétences. Je pense que plutôt de dire plus d'Europe, moins d'Europe, sans se poser cette question-là, c'est d'abord cette question-là. Donc moi je dis, c'est moins de compétences en matière économique, redonner des marges de manœuvre aux États membres en matière de politique budgétaire, notamment, le contraire de ce qu'on a fait par rapport à la Grèce, notamment, qui est une caricature en la matière, mais sur d'autres sujets, plus de compétences. Il paraît que l'Union européenne a des valeurs. Les chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants européens ne cessent de se gargariser des valeurs de l'Union européenne, notamment pour donner des leçons au monde entier, qui commencent à les faire respecter sur le sol de l'Union européenne, et notamment qu'on mette enfin en cause les politiques de M. Orban en matière de liberté publique et de droits de l'homme. Donc là, on devrait avoir plus de compétences, mais autant la Commission européenne a les moyens de mettre en place ce qu'on appelle les procédures d'infraction en matière économique, autant sur ces questions de droit et de liberté, ça avance, mais vraiment tout doucement, et en règle générale, on s'en tient aux réponses des chefs d'État et de gouvernement. Donc ça ne marche pas. En matière économique, on ne s'en tient pas aux réponses des chefs d'État et de gouvernement. On va fouiller, on regarde la réalité de la mise en cause de la concurrence libre et non faussée. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut arriver à travailler si on veut travailler autrement. Et je pense qu'en matière sociale, on a des choses à faire. On a des choses à faire pour empêcher les régressions sociales, pour empêcher le dumping social, pour empêcher le développement des travailleurs détachés, pour avoir une directive travailleurs détachés, par exemple, qui permette véritablement d'empêcher que les travailleurs détachés des pays de l'Est, puisque c'est d'eux dont il s'agit, soient exploités dans les pays de l'Ouest au mépris du droit social, y compris des prémices de droit social européen, parce qu'on bafoue la directive de 1996 qui n'est pas suffisante déjà. Donc il y a plein de choses à faire si on a envie d'aller dans le bon sens. Alors c'est pas facile notamment parce que le rapport de force politique entre les États membres aujourd'hui n'est pas très favorable. Mais je pense que la gauche européenne, puisque je suis membre du groupe de la gauche unitaire européenne, la gauche européenne doit pouvoir se réveiller en la matière en construisant des rapports de force, en cherchant des alliés sur un certain nombre de sujets.
À propos de la Grèce.
Quand Jean-Claude Juncker a dit, en juillet 2015, il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens, c'est tout un symbole. C'est d'ailleurs vrai et faux. En fait, ils ont voulu imposer à la Grèce des politiques ultralibérales. en ne leur laissant aucune alternative, ou comme seule alternative, quitter la zone euro. Or, justement, c'est ça qu'il faut arriver à travailler, parce que dire que les choix démocratiques ne se font qu'en respectant les dogmes de l'ultralibéralisme européen, c'est la négation de la démocratie européenne. On n'est pas démocrate seulement quand on est d'accord avec les politiques ultralibérales. On est démocrate quand on respecte les choix démocratiques des peuples. Et cette Europe-là, elle est de plus en plus antidémocratique. Mais il y a d'autres expériences qui sont intéressantes en ce moment, notamment une, c'est celle du Portugal. Il y a un gouvernement socialiste, le Parti socialiste portugais, avec le soutien, mais la non-participation gouvernementale, de mes amis du Bloco de Esquerda et du Parti communiste portugais. Et ça fait deux budgets qui passent, qui ne sont pas des budgets qui respectent les dogmes européens. On a vu la Commission beaucoup s'énerver, on les a vus menacer de les priver de fonds structurels. Pour le moment, ils mènent une politique sociale qui est le contraire des politiques austéritaires qui avaient été imposées au Portugal jusqu'à présent. Donc ça veut dire que, y compris à l'intérieur des traités européens, on peut arriver à résister. Le drame de la Grèce, c'est d'avoir une dette qui est hallucinante. Tout le monde sait qu'elle est irremboursable, cette dette-là. Mais on veut absolument démontrer qu'un gouvernement de la gauche radicale ne peut pas gérer un pays. Et au lieu de l'aider, on l'enfonce. Et on a tourné le dos, finalement, à ce qui a été les politiques d'élargissement de l'Union européenne, notamment quand des pays comme la Grèce, le Portugal et l'Espagne sont rentrés dans l'Union européenne, dans la communauté économique européenne, d'ailleurs, à l'époque. Et quand ces pays sont rentrés dans l'Union européenne, on les a aidés à converger vers un niveau économique et social qui soit à peu près homogène. C'est pas tout à fait ça d'ailleurs, mais quand même à peu près homogène. On n'a pas fait ça au moment où les pays de l'Est de l'Union européenne sont rentrés. On leur a appliqué les politiques ultralibérales avant même qu'ils rentrent dans l'Union européenne. Et donc on a renforcé les écarts. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des problèmes de dumping social avec ces pays-là qui sont épouvantables. Des écarts de richesse qui sont absolument épouvantables. Donc il faudrait mener d'autres politiques en la matière. Et comme ces pays-là, qui d'une certaine façon n'ont pas eu, en rejoignant l'Union européenne, la satisfaction des espoirs qu'ils espéraient, puisque la situation économique et sociale dans la majorité de ces pays est assez dramatique, ça fait monter les nationalismes dans la quasi-totalité de ces pays, avec des degrés divers ou des appartenances politiques divers. Monsieur Orban est membre du Parti populaire européen, c'est-à-dire le même parti que les Républicains. Le PiS, le Parti Liberté, en Pologne, lui est membre du Parti conservateur. Mais les résultats des politiques sont les mêmes. Et ces pays-là ne cherchent dans l'Union européenne qu'un libéralisme sauvage, un libéralisme économique sauvage. C'est pour ça qu'ils sont pas très allants, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la réforme de la directive travailleurs détachés, par exemple.
La sortie du Royaume-Uni va avoir des effets. Je ne fais pas de science-fiction. Est-ce que vous faites de la politique fiction ?
Non, je ne fais pas de la politique fiction.
De l'intérieur, comment c'est vécu ?
Alors d'abord, nous, à la gauche unitaire européenne, nous avons le Sinn Féin, c'est-à-dire le parti indépendantiste, si je puis dire, irlandais, qui existe en République d'Irlande et en Irlande du Nord. Donc nos amis du Sinn Féin, eux, sont très inquiets des conséquences du Brexit, y compris parce que les Irlandais, comme les Écossais, ont voté contre la sortie de l'Union européenne. Mais y compris parce que, pour eux, l'appartenance à l'Union européenne est aussi une garantie par rapport aux accords de paix qu'on appelle les accords du Vendredi Saint en Irlande. Donc ça, c'est déjà un point spécifique. Parce que ce qu'on ne dit peut-être pas assez sur la question du Brexit, c'est que le Royaume-Uni, c'est quatre peuples et quatre nations. Les Anglais, les Gallois, les Écossais et les Irlandais. Les Irlandais d'Irlande du Nord. Les Gallois et les Anglais ont voté pour la sortie, mais les Écossais et les Irlandais ont voté contre.
Je fais une petite parenthèse, la City aussi, à l'intérieur, a voté contre.
La City, puis il y a un vote très clivé au niveau des âges aussi, au niveau des catégories socio-professionnelles, mais aussi au niveau des âges. Les jeunes, on peut voter, mais quand ils ont voté plutôt contre le Brexit, parce que là aussi, il y a eu beaucoup d'alimentation des peurs. J'étais très intéressée par des analyses qui disaient que les adversaires du Brexit étaient très sur la défensive. Et quand on est sur la défensive, on n'est pas bon en général. Donc après, moi, je respecte le choix des Britanniques, mais je crains que ceux qui, en votant pour le Brexit, ont cru que ça allait régler tous les problèmes sociaux des Britanniques, aient fait une légère erreur. Parce que les conservateurs britanniques et les gouvernements britanniques en général ont été quand même les champions du libre-échange depuis de très nombreuses années. Et je corrige en disant les gouvernements britanniques, parce qu'on n'a pas oublié M. Blair, qui était un allié de M. Schröder, le social-démocrate allemand, qui ont prétendu ouvrir la troisième voie et qui en fait se sont engouffrés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le social-libéralisme.
Marie-Christine Vergiat, députée européenne, et l'invité du magazine.
Ce gouvernement britannique, ultra-libéral en réalité, qu'est-ce qu'il va chercher à sauver en quittant l'Union européenne ? Le libre-échange. Donc la bataille que nous menons, que nous allons essayer de mener, nous, c'est la protection des droits des travailleurs, qu'ils soient britanniques ou européens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de très nombreux Européens qui travaillent en Grande-Bretagne et qu'il y a des Britanniques qui travaillent sur le territoire de l'Union européenne. Donc les droits acquis, notamment dans le cadre de la libre circulation de ces travailleurs, doivent être protégés. Or, si on est juste sur du libre-échange, on peut craindre qu'il y ait encore plus de dumping social. Quand on regarde la campagne du Brexit, ceux qui ont été montrés du doigt dans le cadre du Brexit, qui ont été victimes de xénophobie, c'est notamment les Européens de l'Est et tout particulièrement les Polonais, parce qu'il y a 900 000 Polonais aujourd'hui qui travaillent au Royaume-Uni. Donc il faut travailler à cette protection. Après, il y a la réaction de l'Union européenne. Et la réaction de l'Union européenne, de ce que j'en vois pour le moment, n'est pas à la hauteur des enjeux quand même. Quelles sont les deux réponses principales qui sont mises en avant ? On va renforcer l'Union économique et monétaire, on sait ce que ça veut dire encore un peu plus de libéralisme, et on va créer une Europe de la défense. Ben moi, j'aimerais mieux qu'on crée une Europe de la paix, hein, parce que créer une Europe de la défense, quand on voit les redemontades qu'il y a par rapport à la Russie aujourd'hui, je ne défends pas M. Poutine, je précise, M. Poutine a beaucoup de défauts, mais chercher en permanence à humilier la Russie avec des côtés provocateurs, comme si le gouvernement ukrainien était le must du must aujourd'hui, ce n'est pas très réaliste pour éviter la guerre. Donc au lieu de construire une Europe de la défense qui soit prête à faire la guerre, il vaudrait mieux avoir une politique étrangère, notamment, qui sauvegarde la paix. Et l'autre élément, qui réponde véritablement aux attentes des citoyens européens, parce que quand vous les interrogez sur leur première préoccupation, la première préoccupation des citoyens européens, c'est de dire que l'Union européenne devrait prioritairement lutter contre la pauvreté et les inégalités. Et moi, là, pour le moment, je ne vois zéro réponse.
Qu'est-ce qu'il faut pour modifier tout ça ? Il faut changer de traité, mettre un nouveau contenu, il faut convaincre ?
Moi, je crois qu'il faut véritablement batailler pour construire un plan A. C'est-à-dire, effectivement, partir à la renégociation des traités. De toute façon, on y va. Pour renforcer l'Union économique et monétaire, pour créer l'Europe de la défense, il faut modifier les traités. Donc, partons à la renégociation des traités avec nos priorités. Et ces priorités, c'est effectivement sortir du pacte de stabilité, sortir des règles du traité qu'on appelle le traité budgétaire, arrêter ces politiques d'austérité et proposer d'autres politiques économiques et sociales, des politiques qui luttent effectivement contre le dumping social et fiscal à l'intérieur de l'Union européenne, des politiques de solidarité. Et je crois que nous devons mener la bataille. Mener la bataille, comme je le dis, en créant du rapport de force, en cherchant des alliés dans les forces politiques, mais aussi des alliés dans la société civile. Parce que je crois qu'il y a un décalage, en réalité, entre la société civile et les partis politiques. Je vais terminer sur un exemple, si vous voulez bien, qu'on a vu avec la Pologne, par exemple. Quand la Pologne, le gouvernement polonais a cherché à mettre en cause le droit à l'avortement, a supprimé en réalité le droit à l'avortement, les femmes polonaises se sont levées. Ça veut dire qu'elles étaient en décalage avec leur gouvernement. Et je crois qu'il y a des exemples de ce genre un peu partout en Europe. Mais encore faut-il y croire véritablement et mener les batailles au niveau européen. Et je crois que là, on est un peu faible à ce niveau-là. On n'est pas assez dans des batailles européennes. On est plus dans des batailles pour se protéger par rapport à ces institutions européennes-là, qui sont effectivement dangereuses pour les droits sociaux, pour faire évoluer les choses, il faut construire d'autres rapports de force.
Il ne faut pas attendre une alternance politique en Allemagne.
Ça mériterait de longs débats. Moi, ayant bien connu M. Schulz comme président du Parlement européen, je n'ai pas une confiance absolue dans M. Schulz. Mais je vois qu'effectivement, il y a des discussions en Allemagne. Tout ça, c'est des questions de rapport de force politique. Et puis, je pense que beaucoup de socialistes en Europe commencent à tirer les leçons d'un certain nombre de résultats électoraux.
Merci à Marie-Christine Vergia, députée européenne, pour sa libre participation à ce programme réalisé dans le cadre de l'UMA Café de Nantes. La prochaine invitée de l'UMA Café de Nantes, Angélique Thébert, interviendra sur le thème « La prison comme porte-voix, taureau et la désobéissance civile » le vendredi 23 novembre à 18h au lieu unique à Nantes.